Nous sommes aujourd'hui dans le troisième message d'une série que j'ai intitulée « À la découverte du Saint-Esprit ». Le premier message portait sur la personne du Saint-Esprit. Le second message portait sur l'Esprit consolateur, l'Esprit conseiller, l'Esprit défenseur. C'est une dimension que met notamment en avant l'apôtre Jean dans son évangile. C'est le Saint-Esprit qui demeure avec nous, auprès de nous, et qui par appel des choses déjà annoncées, mais aussi par annonce des choses à venir, nous conduit dans la vérité. C'est aussi le Saint-Esprit qui prend de ce qui est à Christ et nous le communique afin de nous transformer. C'est le paraclète, celui qui demeure avec nous jusque dans l'éternité. Mais bien sûr, il existe une autre dimension, et c'est le thème de ce message aujourd'hui. Une dimension liée directement au Saint-Esprit, c'est la puissance. Nous connaissons certains textes, comme Actes chapitre 1er, verset 8, où il est écrit « Vous recevrez une puissance ». C'est une parole de Jésus, une promesse de Jésus. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Et c'est dans l'évangile de Luc, je voudrais faire la lecture ce matin, dans Luc chapitre 24, à partir du verset 45. Luc 24, à partir du verset 45. Nous sommes dans le même contexte qu'Actes chapitre 1er. Ce sont les dernières paroles de Jésus avant son enlèvement. Et je lis. Alors Jésus ouvrit l'esprit des disciples afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Il arrive dans d'autres textes du Nouveau Testament que ce mot « puissance » soit traduit par « force », par « pouvoir », par « miracle ». Mais ce qui est important de retenir surtout, c'est que cette puissance n'est pas impersonnelle. Ce n'est pas une force, simplement. C'est la puissance du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui guérit les malades. Ce n'est pas une force. C'est le Saint-Esprit qui guérit les malades. Ce n'est pas, comme Pierre le dit, la piété qui guérit les malades. C'est le Saint-Esprit qui fait fuir les démons, qui renverse les oppositions, qui convainc les hommes de se tourner pour leur salut vers Jésus-Christ. Et cela fait écho à des textes de l'Ancien Testament comme Zacharie chapitre 4 verset 6 où il est écrit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, sous-entendu des hommes, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette puissance, dans l'Ancienne Alliance, était réservée à quelques-uns, des prophètes, des juges ou des rois. Mais avec Jésus-Christ, elle prend une dimension nouvelle, une dimension universelle. Et le Seigneur, nous l'avons lu dans ce passage, dit « Vous recevrez sur nous, une puissance, celle du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. » Et Pierre, au jour de Pentecôte, confirma, annonçant cela à tous ceux qui venaient de croire à son message, de croire à l'Évangile, la promesse du Saint-Esprit est pour vous. Et elle est aussi pour vos enfants. Et elle est aussi pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. La promesse n'est plus pour quelques-uns. La puissance n'est plus pour quelques-uns. Choisis sur le volet à cause d'une fonction, d'une responsabilité particulière. Mais la promesse est pour nous, la promesse est pour toi, la promesse est pour chacun d'entre nous. Dieu m'a appelé, Dieu t'a appelé et Dieu t'appelle, Dieu vous appelle aujourd'hui à recevoir le Saint-Esprit et cette puissance qu'il a promis de nous donner. Et nous sommes convaincus de l'importance d'expérimenter, mais encore plus de vivre cette promesse à notre tour. Qui ? Si elle n'ajoute rien à notre salut, parce que la Pentecôte n'est pas la Pâque, parce que la chambre haute n'est pas Golgotha, n'en reste pas moins indispensable pour accomplir notre mission pour le royaume de Dieu. Alors, je veux commencer en clarifiant les choses concernant les différents aspects du ministère du Saint-Esprit. Parce qu'il est question de lui dans plusieurs choses. Il est question de lui au sujet du salut. Il est question de lui dans la marche chrétienne, ce qu'on appelle la marche selon l'Esprit. Il est encore question de lui, le Saint-Esprit, dans le témoignage et le service de Dieu. Et parfois, on mélange ces choses, voire on les amalgame. Et au bout du compte, on ne sait plus de quoi on parle, au risque de créer de la confusion. Cependant, la Bible nous permet d'identifier trois positions distinctes du Saint-Esprit à notre égard, en fonction du ministère qu'il est en train d'accomplir. Trois positions, et je vais les détailler maintenant avec vous. La première, je l'appelle la position du salut, le Saint-Esprit en nous. Il sera en vous. Jean 14, 18, c'était la promesse de Jésus à ses disciples avant qu'il ne les quitte. Il sera en vous. Et il est ici question de la nouvelle naissance, celle selon l'Esprit. Comme Jésus l'avait déjà annoncé à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Paul l'appelle quant à lui la régénération ou le renouvellement de l'esprit. Et c'est une opération de l'esprit avec un grand E, dans l'esprit avec un petit E de l'homme. Car dans son état naturel, l'homme, à cause du péché, est séparé de Dieu et son esprit est mort. Autrefois, notre esprit était mort, car loin de Dieu. Mais lorsque un homme, quel que soit cet homme, se tourne convaincu par le Saint-Esprit vers Jésus, alors le Saint-Esprit lui communique un nouveau souffle de vie. Et il vient en lui, plus précisément dans son esprit, pour le refaire vivre, en le dégageant du péché et en le reconnectant avec Dieu. Et c'est ainsi que Paul écrit dans Romains chapitre 8, verset 9, que l'Esprit de Dieu habite en nous, en nous. C'est la position du salut, c'est la première. Maintenant, je voudrais prendre le temps de corriger deux choses. Ce que je vais dire paraît peut-être très évident pour beaucoup, mais si je le dis, c'est parce que des personnes qui s'approchent du Seigneur au milieu de nous l'ont entendu de la part de chrétiens au milieu de nous. Donc, il faut que je le corrige. Premièrement, un homme est régénéré une fois pour toutes. Et seul son esprit est régénéré. Quant à l'âme et au corps, ils devront être sanctifiés, c'est un processus, par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, dans l'attente de la rédemption finale, c'est-à-dire du retour de Jésus-Christ. Deuxième chose, quand je parle de régénération et de l'Esprit qui est en nous, il n'est pas du tout question ici du baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit n'a rien à voir avec le salut. Le salut ne dépend pas du fait que quelqu'un parle en langue ou non. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus. Donc, première position, celle du salut, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Deuxième, je l'appelle une position d'accompagnement. C'est le Saint-Esprit avec nous. Toujours Jean 14, verset 18, Jésus disait à ses disciples, parlant du Saint-Esprit paraclète, consolateur, « Il demeure avec vous. » Et ce Saint-Esprit consolateur, semblable à Jésus-Christ, se tient à nos côtés pour nous aider, nous conseiller, nous défendre, nous enseigner, nous conduire et aussi nous transformer, nous sanctifier à l'image de Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. C'est l'œuvre du Saint-Esprit avec nous, dans chaque situation, à chaque instant. Et nous l'avons dit, nous avons tout intérêt à être attentifs à la voix du Saint-Esprit dans la foi et dans l'obéissance. C'est à ce niveau que nous parlons de communion, koinonia, communion avec le Saint-Esprit. Il demeure avec toi et il demeurera avec chacun d'entre nous jusque dans l'éternité. Quand bien même nous sommes infidèles à Dieu, Dieu demeure fidèle et le Saint-Esprit demeure avec nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Troisième position, une position de puissance. le Saint-Esprit sur nous. Jésus accomplit lui-même son ministère par la puissance du Saint-Esprit venu sur lui, sous la forme corporelle d'une colombe. Et quelque temps plus tard, dans une synagogue, ouvrant un texte des prophètes, il lut un passage qui le concernait et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et annoncer une année de la grâce, de grâce de la part du Seigneur. Luc chapitre 4, verset 18. Le Saint-Esprit était sur lui. Plus tard, avant de laisser ses disciples pour retourner vers son Père, il leur confia la mission de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations et il leur promit ceci. Nous l'avons lu, Luc 24, 49, « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis et vous recevrez sur vous la puissance d'en haut. » Dans Actes 1, 8, Luc rend ses paroles de cette manière, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le même Esprit qui était venu sur Jésus pour qu'il accomplisse son ministère et maintenant sur ses disciples pour qu'ils accomplissent à leur tour l'appel qu'il leur confie. Et c'est ici sa promesse, et sa promesse c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Et il nous appartient donc de vivre pleinement ces trois positions du Saint-Esprit dans nos vies. Un, le Saint-Esprit en nous, le salut. Deux, le Saint-Esprit avec nous, la vie chrétienne. Trois, le Saint-Esprit sur nous, la puissance pour témoigner de Jésus-Christ. Et chaque position est distincte et ne doit pas donc être mélangée ou amalgamée. Vivons-les pleinement chacune. Alors je reviens maintenant plus longuement sur la troisième position que j'ai évoquée du Saint-Esprit sur nous. C'est donc la dimension de puissance. Et il est question ici de ce que la Bible appelle le don du Saint-Esprit ou encore le baptême du Saint-Esprit. Et vous savez que baptême veut dire immerger, plonger. Et par baptême du Saint-Esprit, nous signifions donc que Dieu veut nous immerger dans l'Esprit premièrement. Et dans sa puissance, en vue de cette œuvre à accomplir, parler de Christ aux nations. Après sa résurrection, Jésus annonça aux disciples une nouvelle ère de démonstration de puissance. Un temps où les disciples n'auraient plus peur ni d'affronter la maladie, ni les démons, ni les puissances des hommes, ni la mort elle-même. Un temps où il serait plein de force, de sagesse, de grâce, pour accomplir des œuvres encore plus grandes que celles qu'il avait faites lui-même. Et cette ère nouvelle, c'est celle du Saint-Esprit parmi les hommes. C'est celle du Saint-Esprit venant sur les disciples de Christ avec force. Jusqu'à Jésus, la puissance du Saint-Esprit n'avait été l'apanage que de quelques-uns, choisis spécialement par Dieu. Il s'appelait Moïse, il s'appelait Josué, parmi les juges, Othniel, Barak ou Samson, David plus tard et encore Élie et Élisée. Et puis dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, sans oublier par-dessus tous les autres, Jésus lui-même. Mais les prophètes l'avaient annoncé. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et cette prophétie s'accomplit le jour de Pentecôte par ce qu'on appelle l'effusion ou la descente du Saint-Esprit, pendant laquelle les apôtres réunis dans la chambre haute, ces 120-là, furent immergés dans la présence, dans la gloire et dans la puissance du Saint-Esprit. Ces jours sont encore les nôtres. Et l'Esprit de Dieu est toujours présent au milieu de nous. Et il est toujours prêt à faire de nous, à notre tour, des témoins puissants. Alors l'Esprit est donc venu parmi les hommes, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et maintenant nous allons nous intéresser à savoir en quoi consiste justement cette descente du Saint-Esprit. Premièrement, à recevoir le Saint-Esprit. C'est l'expression que les apôtres ont employée. Jésus dit lui-même, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Plus tard, quand il rencontra des disciples de Jean-Baptiste à Éphèse, Paul immédiatement leur adressa cette question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru, Actes 19, 2. Et si Paul les aborda avec cette question, c'est donc qu'elle n'est pas secondaire. La réception du Saint-Esprit n'est donc ni réservée à quelques-uns, des super ministères, non. Mais elle est pour chacun d'entre nous qui croyons. Mais elle n'est pas non plus une simple option, un simple addendum, un simple plus, bonus de la vie chrétienne. C'est un impératif. Non pas en vue du salut, je l'ai dit, mais de l'œuvre à accomplir pour le royaume de Jésus-Christ. L'utilisation du verbe recevoir nous montre que cela n'a rien à voir avec un mérite quelconque. Je répète, ce n'est ni à cause d'un appel, ni à cause d'un ministère, d'une responsabilité, ni à cause d'une lignée, ni à cause d'une piété particulière. Mais quand Jésus et les apôtres parlent de recevoir, c'est donc qu'il y a une idée de grâce. C'est une grâce. La grâce d'accepter ce qui nous est offert par Jésus-Christ. Ce que Jésus a obtenu pour nous auprès du Père et qu'il veut nous donner maintenant parce qu'il nous aime. Et l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 3 que c'est par la prédication de la foi que nous recevons le Saint-Esprit. Dieu donne par grâce et nous recevons par la foi. Dieu donne par grâce le salut, nous le recevons par la foi. Dieu donne par grâce le Saint-Esprit, nous le recevons pareillement par la foi. Et vous aussi, si vous ne l'avez pas encore reçu et que vous êtes né de nouveau, croyez que la promesse est pour vous. Désirez-la de tout votre cœur. Et tout comme il est déjà en vous, et tout comme il vit avec vous chaque jour, et qu'il n'est donc pas un inconnu, sûrement le Saint-Esprit viendra sur vous avec la même grâce pour vous plonger dans sa puissance. La promesse est pour toi. La promesse est pour chacun d'entre nous en ce jour encore. Recevoir le Saint-Esprit, c'est donc le premier point. Deuxième chose, baptiser du Saint-Esprit, notre expression qui parle de l'effusion du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, annonçant le Messie, disait déjà au peuple, « Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Et plus tard, au jour de son ascension, Jésus confirma ceci, acte 1, 5, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Il est donc question ici de baptême, il y a un parallèle entre les deux, c'est certain, mais aussi une différence clairement établie. Il y a bien là deux baptêmes distincts, un d'eau et un d'Esprit Saint. Je rappelle que, encore une fois, que baptiser veut dire plonger, immerger. Le baptême d'eau est pratiqué au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus nous l'enseigne. C'est un témoignage devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un témoignage d'engagement. Cependant, Paul écrit aussi que d'une manière spirituelle, c'est en la mort et la résurrection de Jésus que nous avons été immergés. Romains chapitre 6, verset 3. Le baptême d'eau, c'est en quelque sorte le témoignage d'une immersion en Jésus. Une immersion, un plongeon dans la vie de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit est quant à lui une immersion dans la personne et la puissance du Saint-Esprit. Le premier donc dans la personne de Christ, le deuxième dans la personne du Saint-Esprit. Le premier est un engagement à suivre Jésus, le deuxième et la promesse de Jésus de nous couvrir de puissance. Et cette immersion dans le Saint-Esprit se manifeste alors par un signe révélateur et initial, le parler en langue. Alors, j'en parlerai pas aujourd'hui, j'ai déjà fait à plusieurs reprises et je vous prie de vous reporter à ces messages sur notre chaîne YouTube. Cette immersion dans le Saint-Esprit ou baptême dans le Saint-Esprit a maintenant trois conséquences. La première, je n'ai pas le temps de la développer, c'est que l'immersion dans le Saint-Esprit nous communique l'onction du Saint-Esprit. Paul l'écrit, 1 Corinthiens 2, « Dieu nous a oints. Il nous a oints, tout comme Jésus était oint d'Esprit Saint et de force », dit l'apôtre Pierre dans Actes 10. Maintenant, arrêtons-nous sur deux autres points. Deux autres conséquences de l'immersion dans le Saint-Esprit. Premièrement, cette immersion nous remplit du Saint-Esprit. Par ce verbe « remplir », il est question de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Il existe en fait deux verbes « remplir » en grec. Le premier, oubliez le grec, il s'appelle « pléro » et il est devenu « plein » en français. Plein. Et ça nous parle d'un état. Un état. Le deuxième, c'est « pléto » et qui veut dire remplir, mais dans l'idée d'un processus, remplir, on remplit quelque chose. Il y a donc un état et un processus, il y a ces deux verbes. On pourrait trouver que c'est un peu complexe, mais c'est très intéressant comme notion. Et puisqu'elles sont dans la Bible, il est important de les comprendre. Parlons d'abord de cet état d'être plein du Saint-Esprit, le verbe pléro. Il est dit que Jésus, Luc 4, 1, Jésus était non pas rempli simplement, mais le verbe c'est pléro, donc Jésus était plein du Saint-Esprit lorsqu'il revint du Jourdain. Étienne et Barnabas étaient décrits comme des hommes pleins, encore pléro, de foi et du Saint-Esprit, acte 6 et acte 11. Alors qu'est-ce qu'être plein de l'Esprit? Je l'ai insisté, c'est un état. C'est l'état d'une personne qui a été immergé et baptisé donc dans le Saint-Esprit. En réponse à sa foi et par grâce, le Saint-Esprit vient sur elle d'une manière pleine, entière, parfaite, en plénitude donc. Pas de demi-mesure de son côté. Le Saint-Esprit ne vient pas à 10%, il ne vient pas à 50%, il ne vient pas à 90%, il vient à 100%. Donc toute personne qui a été immergée dans la présence du Saint-Esprit, dans sa puissance, est pleine de l'Esprit de Dieu. Cependant, à notre niveau, il peut y avoir des différences quant à la manifestation de cette plénitude. Et ça, c'est lié à notre foi, au développement de notre foi, de notre sanctification et de notre communion. Et il nous est dit dans la Bible, je pense à ce que Paul écrit dans Éphésiens ou Colossiens, « Entretenez-vous » dans l'idée de grandir et de développer cette manifestation de la plénitude de l'Esprit de Dieu qui est dans notre vie. Donc, quiconque est baptisé du Saint-Esprit est plein du Saint-Esprit. Ne cherche pas à savoir si tu as plus d'Esprit Saint ou moins d'Esprit Saint qu'un autre. Toi qui es baptisé du Saint-Esprit, tu en as autant que chacun d'entre nous. Nous sommes tous pleins du Saint-Esprit. La question est donc de savoir comment nous manifestons cette plénitude. Deuxième verbe, pléto, qui veut dire être rempli. C'est une action de remplissage, en quelque sorte. C'est un verbe qui est propre à Luc. On le retrouve dans son évangile avec Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste qui ont été à un moment remplis dans cet esprit-là, remplis, un remplissage de cet homme et de cette femme par le Saint-Esprit. On le retrouve aussi dans les livres des Actes par cinq reprises et notamment dans Acte 2 verset 4 au jour de la Pentecôte où il dit qu'ils ont été remplis, les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, une action de remplissage encore une fois, Dieu a déversé son esprit dans leur vie. Luc emploie ce verbe pléto, donc non pas pour décrire un état, mais un phénomène ponctuel. Par exemple, dans le cas de visitation du Saint-Esprit, c'est le cas d'Élisabeth, elle a été visitée par l'Esprit de Dieu, elle a été remplie, le Saint-Esprit l'a remplie à cet instant. Et il nous arrive de connaître des visitations de l'Esprit. Et alors le Saint-Esprit, nous renouvelle, il nous remplit. On le trouve aussi dans le cas du baptême du Saint-Esprit, à la Pentecôte, ou plus tard avec Saul et à Damas. Et dans cette expérience initiale, première du baptême du Saint-Esprit, nous sommes donc remplis pour la première fois, et c'est pour ça que là, il y a ce verbe « pléto ». On le voit utilisé aussi lorsque les apôtres vont prêcher. Pierre à la Pentecôte a été rempli. Il était pourtant plein, d'accord ? Mais il a été rempli du Saint-Esprit parce qu'il, maintenant, il devait prêcher la parole. On le voit aussi dans la manifestation de charisme. Que ce soit Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui lui aussi a été rempli du Saint-Esprit un moment pour prophétiser sur son fils et sur le Messie, ou Paul, face au magicien Élimas, qui a été rempli du Saint-Esprit pour prononcer une parole de jugement sur Élimas. Ce remplissage correspond donc à une impulsion de l'Esprit. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des juges, on pourrait parler avec Samson ou avec les autres juges d'être saisi par le Saint-Esprit. Vous comprenez ? Saisi par le Saint-Esprit. Donc c'est une impulsion de l'Esprit dans une situation donnée en vue de produire une action particulière et puissante. Je suis convaincu que plusieurs, vous comprenez ce que je veux dire, vous savez ce que c'est qu'être plein du Saint-Esprit, mais vous savez qu'à des moments particuliers, c'est comme si le Saint-Esprit vous avait saisi. Il vous a visité. Ou alors il vous préparait pour quelque chose là de particulier. En résumé, sur ce point très important, nous disons que baptisés du Saint-Esprit, immergés dans le Saint-Esprit, nous sommes remplis, pleins, pléraux de l'Esprit. C'est notre état. Et dans des circonstances particulières, le Saint-Esprit nous remplit alors pléto, spécialement, ponctuellement peut-être, pour agir d'une manière puissante et efficace. Par un témoignage puissant, par une parole prophétique, par une action miraculeuse. Nous avons donc besoin des deux. Alléluia. Donc je l'ai dit, le fait d'être immergé dans le Saint-Esprit nous oint de l'Esprit et nous remplit du Saint-Esprit. Dernière chose, c'était la promesse de Jésus, il nous revêt de puissance. Cette immersion dans le Saint-Esprit nous revêt de la puissance du Saint-Esprit. Jésus le dit aux disciples, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Lui-même, au début de son ministère, en revenant du désert, était revêtu de la puissance de l'Esprit, Luc 4:14. L'immersion dans le Saint-Esprit nous habille donc de puissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va fortifier notre foi. Elle va aiguiser notre témoignage, nos prières, notre prédication, elle nous équipe de dons spéciaux. Pour certains, la guérison, d'autres, la délivrance, d'autres, la prophétie, d'autres, encore, la prédication de la parole. Tout cela afin de nous rendre capables d'accomplir notre ministère de façon efficace. Jésus a donc envoyé, a fait descendre sur ses disciples l'Esprit qu'il avait reçu de Dieu lorsqu'il est remonté auprès du Père. Et l'Esprit du Seigneur est venu sur nous, tout comme il était venu sur Jésus au Jourdain. Il est venu sur nous en vue de la mission à accomplir. Nous avons été plongés dans sa présence. Nous avons été immergés en lui. Et tel un vase, tel un verre, nous nous sommes laissés remplir tout entier du Saint-Esprit. Et revêtir de force pour agir selon sa volonté. Jésus veut donc nous immerger dans le Saint-Esprit afin, un, je n'ai pas développé, de nous oindre du Saint-Esprit. Quelque part, c'est l'idée de nous marquer, de nous mettre à part. Deuxièmement, de nous remplir de sa présence. Et troisièmement, de nous revêtir de sa puissance. Il y a donc bien une dimension de puissance dans le don du Saint-Esprit. Et nous sommes appelés, particulièrement nous chrétiens de Pentecôte, à manifester cette puissance. Pourtant, trop souvent, elle fait défaut. Pour quelle raison ? Alors que le Saint-Esprit est au milieu de nous et qu'il est sur nous. Parce que trop souvent, nous réduisons la Pentecôte, non pas dans la doctrine, mais dans notre pratique, à la manifestation importante, certes, du parler en langue. Mais la Pentecôte, ce n'est pas que le parler en langue. Le parler en langue, ce n'est que le signe initial. Mais parce que nous sommes trop centrés sur cette question du parler en langue, nous cherchons encore la puissance. Par contre, je le dis tout de suite, je ne partage pas ces enseignements que je trouve très maladroits qui font la différence entre une onction de l'esprit et une onction de puissance. Parce que la puissance vient avec le Saint-Esprit. Ne séparons jamais les deux. Et ensuite, autre raison qui explique notre manque de puissance malgré la présence du Saint-Esprit et le fait qu'il soit sur nous, c'est que je crois que trop souvent notre approche est dépersonnalisée. On s'attend à recevoir une force, une puissance qui devrait alors presque opérer mécaniquement. J'ai de la force. Mais ce n'est pas cela. Parce qu'avant de parler de puissance, nous parlons d'une personne. Celui que nous recevons sur nous, c'est le Saint-Esprit. Il est Dieu. Il n'est pas notre serviteur. Il est notre Seigneur. Et si nous voulons opérer dans la puissance qui est la sienne, pas la nôtre, la sienne, il nous faut apprendre à travailler avec lui. Philippiens 1,19, Paul parle de l'assistance du Saint-Esprit. C'est-à-dire développer une relation de partenariat, de compagnon avec lui. Et ça consiste premièrement, et ça sera l'objet du quatrième message de cette série dans 15 jours, à recevoir ses communications, à les interpréter et à agir selon elle. Alors pour lever un peu le voile et pour que vous puissiez peut-être y réfléchir, j'appelle cela les 5 I des communications du Saint-Esprit. À travers ces 5 I, nous verrons la puissance de l'Esprit se manifester dans nos vies. Le premier I, je l'ai noté parce qu'à chaque fois j'en oublie un. L'intuition, le deuxième l'illumination, le troisième les impulsions, quatrième, les inspirations. Et cinquième, les instructions. Et à travers ces communications, nous verrons la puissance du Saint-Esprit se manifester. Cette semaine est une semaine de prière, dont le thème est le Saint-Esprit. Et je vous invite à venir nous retrouver pour vivre ces choses sur lesquelles je viens de vous parler. Nous retrouvons de lundi à jeudi, avec ce temps spécial, mardi soir, de prière. Pour ceux qui cherchent à être plongés dans la personne, la présence et la puissance du Saint-Esprit, et pour tous les autres, et pour moi aussi parce que j'en ai besoin, être renouvelé, être rempli à nouveau pour accomplir le ministère qu'il nous confie. Alléluia. Seigneur, la promesse est pour nous. La promesse est pour nous, elle est encore pour chacun d'entre nous. Les temps ne sont pas passés, nous le croyons, nous le proclamons. Et Seigneur, ton esprit est à l'œuvre au milieu de nous et il est encore là, au-dessus de nous. Et je prie pour qu'il vienne sur nous, sur tous ceux sur lesquels il ne serait pas encore venu, mais qui aspirent à cela dans leur cœur. Et Seigneur, pour chacun d'entre nous, il y a cette espérance de te servir dans ce monde avec puissance, parce que nous le savons. Ce n'est pas, Seigneur, du marketing, ce n'est pas, Seigneur mon Dieu, des biens immobiliers, ce n'est pas telle ou telle action qui nous permettra d'atteindre cette génération, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui se démontre à travers des guérisons, des délivrances, des conversions, des consolations. Alors Seigneur, sans toi, cher Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Te prions encore, non seulement de nous aider à manifester la plénitude qui est en nous, mais encore de nous remplir particulièrement pour des actions de puissance dans lesquelles tu veux nous conduire. Merci pour cette dimension extraordinaire de la vie chrétienne qui n'est plus simplement pour un ou deux, un roi, un prophète ou un juge, mais qui est pour chacun de tes enfants. Dans le nom du Seigneur, nous te louons notre Dieu, notre Père. Amen. Que la grâce et la bénédiction soient avec vous et qu'elle vous accompagne tout au long de cette semaine. Merci de votre présence.